En 1997, une stèle de petite taille avec des images frappantes a été découverte dans le temple de Ninhursag à Mari dans un contexte du milieu du troisième millénaire. La même année, on a trouvé à Hagoshrim au nord-est d'Israël, à Nos, avec une décoration incisée, comportant des traits communs avec la stèle de Marie dans le contexte du sixième millénaire. La stèle de Marie a été présentée pour la première fois en 1999 dans le catalogue de l'exposition Syrie, terre des civilisations, et la publication définitive par Margueron a suivi en 2007. L'os de Hagoshrim a fait l'objet d'une édition définitive en 2011 et par le fouilleur Nimrod Getzov. Nous allons traiter la combinaison des yeux humains démesurés, des pubis féminins, des arbres et des animaux à cornes qui représentent le divin. Le thème, au moins par certains de ses composantes, couvre une grande étendue géographique de la Mésopotamie et même plus à l'est, jusqu'à la péninsule ibérique et temporelle du sixième millénaire au milieu du premier millénaire. Comme nous le verrons, les arbres et les animaux à cornes transcendent également les frontières du genre masculin-féminin. D'abord, nous allons voir une douzaine d'objets environ illustrant les motifs qui viennent d'être mentionnés par ordre chronologique. Ensuite, nous allons introduire quelques questions soulevées et, pour quelques-unes d'entre elles, proposer des réponses. Ce qui suit combine des observations connues de longue date à quelques nouvelles réflexions. Il est impossible de mentionner dans cette communication tous ceux à qui je suis redevable. Ils seront dûment répertoriés dans la publication prévue. Nous commençons par les témoins archéologiques. Et sur l'écran, vous voyez maintenant l'os de Hagoshrim avec sa décoration incisée. C'est l'os d'une patte, peut-être d'une chèvre. Le site sur lequel il a été trouvé est une vaste agglomération du sixième millénaire liée à la culture Halaf. Nous avons ici et de loin la plus ancienne représentation des quatre motifs. Dans la même strate de l'os, à Hagoshrim, un sceau a été trouvé, montrant juste deux de ces motifs, un animal à cornes et une branche. À Habouba Kabira Sud, sur l'Euphrate syrien supérieur, on a découvert une empreinte d'un sceau cylindre datant de la fin du quatrième millénaire. Pourtant, l'image d'un quadrupède et d'un arbre ou des branches, à ma connaissance, c'est la plus ancienne représentation d'un animal allaitant son petit. À peu de distance de Habouba Kabira, à Tel Halawa, sur l'Euphrate, on a trouvé dans un temple du milieu du troisième millénaire un relief en pierre blanche qui montre, en deux scènes séparées, un quadrupède allaitant et une paire de bêtes à cornes, flanquant un arbre. Ce relief a fait l'objet de plusieurs études, par exemple par Francis Pinnock dans les Mélanges Kühne parus en 2006. Il était publié par Hortman il y a 30 ans ou plus. Sur un support de terre cuite du troisième millénaire d'Ur, figure seulement un triangle et un arbre. La plaque stèle de Marie a été trouvée dans un contexte archéologique du milieu du IIIe millénaire. En raison de son style, certains collègues ont proposé une date de fabrication antérieure, et cela est en effet une possibilité, mais non pas la seule. Nous reviendrons sur la datation. La plaque de Marie avec l'os de Hagoshrim, beaucoup plus ancien, sont le point de départ de cette intervention. Et les deux affichent les quatre motifs mentionnés il y a quelques instants, les yeux en triangle, des arbres et des animaux à cornes. Vous remarquerez, comme plusieurs chercheurs au cours de ces dernières années, l'ambiguïté de la représentation de Marie évoquant à la fois un corps féminin et un visage humain plutôt conceptuel et stylisé que figuratif. Une autre caractéristique de la stèle de Marie sont les paires d'animaux à cornes flanquant un arbre ou flanquant le triangle. Fragments de plaques similaires sont connus, tout trouvé hors contexte archéologique, un autre de Marie même et quelques-uns d'Achour. Dans la péninsule ibérique, un grand nombre de plaques de pierre décorées viennent des contextes archéologiques du IIIe millénaire, seules quelques-unes d'entre elles ayant une paire d'yeux, mais pas de triangle ni des animaux à cornes. On a également trouvé des os et décorés et contemporains avec des yeux tout à fait similaires à ceux de l'os de Hagoshrim, à nouveau sans triangle ni bête à cornes. À ma connaissance, le premier à souligner la similitude avec la plaque stèle de Marie ont été les premiers, ont été Pasquale en 2010 et Dittmann la même année. Plusieurs chercheurs ont emboîté le pas, parmi lesquels Ullinger en 2014 est l'un des ajouts les plus récents. Si l'on revient au Proche-Orient, et des triangles attachés à une branche sont tenus dans les mains d'un être hybride sur un gobelet d'argent datant de la deuxième moitié du IIIe millénaire ou de l'âge de bronze intermédiaire, trouvé dans une tombe de Ein Samia près de la ville de Ramallah au nord de Jérusalem. Comme le serpent est en position verticale sur la droite, il a souvent été interprété comme représentant le chaos et étant apprivoisé et au moyen des motifs qui viennent d'être mentionnés. En effet, le serpent à gauche est prostré, la scène entière ayant été comprise en tout premier par Yadin comme une cosmogonie. À partir de l'âge du bronze moyen qui suit ou de la première moitié du deuxième millénaire, la documentation est beaucoup plus riche. Triangles, arbres et animaux à cornes, certains de ces derniers allaitant leurs petits, abondent. Souvent, et les trois sont combinés, mais parfois nous en avons deux ou juste un. Les yeux immenses semblent disparaître à ce stade. Des plaques pendentifs en relief faites en or, se trouve dans tout le Levant d'Ougarit au nord à Tel el-Adjoul au sud. Certains d'entre elles combinent le triangle avec une branche, comme sur l'os de Hagoshrim et le gobelet de Ein Samia, d'autres n'ont pas la branche. Du deuxième millénaire également datent quelques plaques triangulaires en métal. Et la tombe d'un enfant à Tel el-Adjoul a fourni un minuscule bracelet en or avec deux plaques de ce type, le triangle secondaire avec une décoration en pointillé allant dans le sens d'une compréhension comme triangle pubien. Elisabeth Platt a interprété d'une manière similaire les triangles sur la gauche. L'objet a été trouvé par Pitry dans une tombe du XIe siècle où le fer en à Tel el-Far'an à l'est de Gaza. Ce qui a été trouvé dans la tombe s'inscrit encore dans la tradition du bronze récent. Une statue de bronze d'un dieu et sa mitre portant l'image en relief de deux bêtes à cornes flanquant un arbre stylisé a été mise au jour à Hatzor dans un contexte du bronze récent. Comme nous le voyons dans l'image suivante, et comme cela est connu depuis longtemps, l'arbre entre deux bêtes à cornes et également le triangle pubien dans la même position indiquent en règle générale une déesse, même s'il y a des exceptions pour l'arbre entre deux bêtes. Dans la première moitié du premier millénaire, les animaux à cornes allaitent souvent et les arbres ou branches sont abondants. Le triangle disparaît. Le dixième ou le neuvième siècle, que l'on appelle fer de A, est représenté ici par deux maquettes architecturales en terre cuite provenant de Ta'anach. Le même motif revient, par exemple, sur une plaque d'or à peu près contemporaine provenant de la tombe royale à Tel Halaf, ancienne Gouzana, située sur la principale source du Khabour. Et dans un dessin, et sur un pitos du début du 8e siècle en provenance de Kuntilet Adjroud dans le nord-est du Sinaï. Ici, la composition est placée sur le dos d'un lion et ordonnée de façon qu'on pourrait y voir la référence à une déesse dont l'animal attribut est le lion, comme dans l'exemple du sceau néo-assyrien à droite. À l'âge du fer, et à l'époque perse, des paires de bêtes à cornes flanquant un arbre abondent sur différents supports, par exemple sur des sceaux. Tel est notre choix de documentation et nous continuons avec quelques observations sur la répartition et la datation. L'os sculpté de Hagoshrim est l'exemple le plus ancien connu, en effet étonnamment vieux, montrant les quatre motifs et ensemble, les yeux énormes, un triangle, un arbre et un animal à cornes. Je dois ajouter que le premier art monumental dans le Proche-Orient, le relief en pierre du 9e millénaire de Göbekli Tepe, dans le sud de la Turquie, appartiennent à un monde différent et ne présentent pas ces motifs. De toute évidence, notre documentation ancienne est pauvre et incomplète. La situation commence à s'améliorer à partir du 3e millénaire. Le rendu schématique des motifs sur la stèle de Marie et peut donner une impression préhistorique. D'autre part, un style linéaire comparable est présent dans le décor incisé de récipients en céramique du 3e millénaire. Comme sur cette jarre de Karakouzak dans le nord de la Syrie. Le premier à mentionner pour la stèle de Marie des comparaisons du 3e millénaire fut probablement Patrick Michel en 2011. Pour moi, cependant, la datation de la stèle du 3e millénaire, ou plutôt et reste une question ouverte. La péninsule ibérique au troisième millénaire. Elle est trop éloignée de mon domaine pour me permettre de formuler une opinion personnelle sur les découvertes et leur contexte archéologique. Je ne peux que répéter ici une question déjà posée. Quelle peut avoir été la nature de l'apparent transfert culturel des yeux présents dans le Proche-Orient à des plaques, des os et des figurines humaines de la péninsule ibérique? Mais je ne suis pas sûr que les réponses et que des réponses bien fondées existent. Et un lien possible avec le Proche-Orient sont les ivoires du troisième millénaire de Valencina de la Concepción, près de Séville, réputés provenir de l'éléphant d'Asie. Y a-t-il un lien manquant quelque part, ou cela souligne-t-il simplement que l'Homo sapiens et pouvait agir de manière similaire malgré les distances géographiques et temporelles? Rappelons-nous à cet égard les pyramides d'Égypte et des Amériques. Mon dernier point sur la répartition et la chronologie concerne les yeux et les triangles par rapport à l'arbre et à l'animal à cornes. La paire d'énormes yeux est comme motif séparé, en outre interchangeable avec les seins comme sur la plaque de Marie, prend fin au milieu du troisième millénaire au plus tard. Les triangles autonomes disparaissent après la fin du second millénaire. Les arbres et les animaux à cornes, les derniers seuls ou allaitant en petit ou par paire et flanquant en arbre, et continue par contre jusqu'à l'époque perse. Je laisse la question ouverte. Nous terminons cette présentation avec quelques réflexions sur la signification des motifs. Nous avons commencé avec la combinaison des yeux immenses d'un triangle d'arbres et d'animaux à cornes sur l'os de Agoshrim et sur la plaque de Marie. Trois parmi ces motifs, l'arbre et l'animal à cornes et bien évidemment le triangle, sont connus depuis le troisième millénaire pour représenter des déesses. Et je pars du postulat que la signification des motifs et de Agoshrim est similaire à celle des occurrences ultérieures sur la stèle de Marie et tout le reste. Certains de ces objets et comporte seulement un ou deux des motifs. Dans ce cas, on peut supposer un processus et pars pro toto. L'ambiguïté de la plaque de Marie. Et peut-être que cela n'est pas d'une grande importance, comme cela a été débattu par plusieurs collègues. Et de savoir si les éléments anthropomorphiques sur la plaque sont des yeux ou des seins, une bouche ou un triangle pubien, ou bien sûr les deux. Ce qui importe est que nous avons ici une image complexe qui fusionne des éléments humains avec des éléments animaux et végétaux en vue de transmettre un message synergique métaphorique. Cette formulation est bien sûr une généralisation du XXIe siècle. Mais pour les contemporains du troisième millénaire, la plaque est convoyée sans aucun doute une signification précise, qu'elle ait été unique ou multiple. Selon le principe du « the more, the better », une image polyvalente peut améliorer et enrichir le message. Un point de vue que Nicholas Wyatt a exprimé à propos de l'achéra biblique peut à l'occasion être valable pour les symbolismes religieux en général, à la fois écrits et figuratifs. Parmi eux, je le crois, celui que nous traitons. Je cite The Dictionary of Deities and Demons, page 99. We may be sure that all possible word plays were entertained by the ancients in exploring Asherah's theology. En d'autres termes, l'axiome de Wyatt devient, si les anciens pouvaient poursuivre une approche à facettes multiples, ils le faisaient. La paire d'immenses yeux. Elle disparaît tôt du répertoire. Elle se trouve sur moins de documents et elle a donc une signification moins claire. On peut suivre Irene Winter qui a souligné l'importance des regards qui s'échangent. Ou, comme alternative, on peut accentuer l'omnivoyance de la divinité. Une certaine comparaison dans ce dernier sens peut être trouvée en Égypte. Dans la Memphis du Nouvel Empire, où le dieu Ptah était connu pour sa capacité d'écoute, et des stèles avec des images d'oreilles lui ont été dédiées. Mais cela ne traduit pas nécessairement la connotation féminine de la plaque de Marie avec son deuxième sens présumé des saints. La signification des yeux demeure pour moi toujours non élucidée. À quoi servaient ces motifs? Le fait que les anciens attribuaient un pouvoir apotropaïque à nos quatre motifs va probablement de soi. Je tiens à souligner donc deux cas peut-être différents. Sur le décor incisé du gobelet de Ein Samia, le triangle et l'arbre ont été combinés à une sorte d'objet magique, grâce auquel le chaos est maîtrisé, et selon l'une des interprétations. Et à Tel el Adjoul, Tel el Farah et dans d'autres sites, le triangle est évacué de l'image, peinte ou incisée, pour devenir un accessoire personnel tridimensionnel en métal. Maintenant, deux observations sur l'animal à cornes. 1. Depuis la fin du 4e millénaire, et il peut apparaître allaitant son petit, apparemment en vue de renforcer son message de fertilité et le bon ordre. 2. Un animal à cornes, debout sur ses pattes arrière, grignotant les feuilles d'un arbre, est en réalité une représentation négative. Il indique la sécheresse et le manque de pâturage. Malgré cela, l'image, d'autant plus lorsqu'elle devient héraldique, a dû avoir un effet simplement irrésistible pour les anciens. Nous terminons avec une note sur la question du genre masculin-féminin. Nos motifs sont clairement féminins, mais ici et là, des connotations masculines se rencontrent. Des capridés flanquant un arbre sont représentés sur la mitre d'une statue en bronze d'un dieu provenant de Hatzor. Dans ce cas, on se demande si ce motif peut parfois jouer un rôle masculin, peut-être la fertilité masculine, ou bien s'il occupe la place pour signifier la parèdre de Dieu, tout comme sur les sauts cylindres de bronze moyen qui proviennent du Levant, où une déesse peut être placée sur un taureau signifiant la présence de son époux, le dieu de l'orage, en bas à gauche. Un dernier exemple, avec lequel je termine, peut être vu sur l'empreinte d'un seau cylindre sur un fragment de jarre de Byblos, probablement d'un type du 3e millénaire, mais ça nécessite encore de travail, avec une figure masculine tenant un arbre et un capridé debout en face. Et pour résumer en une phrase, par ces exemples, j'espère avoir mis en lumière l'un des ensembles de symboles du Proche-Orient qui a eu la longévité la plus importante et certaines des questions qu'il suscite.